Après les grandes fêtes, faisant mémoire du grand mystère divin qui ont ponctué ce mois, et bien maintenant on conclut avec ce dernier dimanche, et bien avec la réponse de l'homme en quelque sorte. Devenir disciple de ce Dieu que nous avons contemplé à travers la Pentecôte, à travers la Sainte Trinité, à travers le Saint-Sacrement, et enfin à travers le Sacré-Cœur. Eh bien, nous contemplons là, c'est l'organisation des textes de l'Église, la réponse de l'homme, devenir disciple de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu mais tellement transcendant. Alors, l'appel du disciple, ce qui le caractérise vraiment, c'est qu'il est à l'image du Dieu qu'il appelle. Le caractère de cet appel est absolu. C'est le dépassement radical de la vie familiale et de la vie tout court, et aussi de la logique de cette existence. Là, c'est donc ce village de Samaritains qui refuse d'accueillir Jésus, parce qu'il va vers Jérusalem, et les Samaritains étaient ennemis des Juifs. Donc, toute personne se dirigeant en pèlerinage vers Jérusalem, ils n'étaient pas bienvenus. Doit-on envoyer un feu du ciel? Doit-on maudire, en d'autres termes? Eh bien, ces gens-là, ceux qui refusent d'accueillir le Christ, sa parole, son enseignement. La réponse de Jésus est claire, lui, il est amour. Il l'a dit ailleurs aussi. Allez sur les places, entrez dans les villages, proclamez que le royaume de Dieu est tout proche. C'est toujours ça le thème de la mission du disciple. Et là où on ne vous accueillera pas, eh bien secouez la poussière de vos pieds en leur disant, ben voilà, on vous a annoncé ce royaume, vous n'en voulez pas, on vous rend même votre poussière, comme ça on ne vous doit rien. Mais la justice de Dieu a été accomplie, il y a bien, bel et bien eu la prédication. Et c'est ça le disciple, vous voyez, il ne doit pas maudire, mais en même temps il ne doit pas s'accrocher désespérément à ceux qui refusent d'entendre sa parole. C'est un équilibre. Donc Jean et son frère Jacques ont été sont fait tirer les oreilles par le Seigneur, remis à leur place. Dieu seul se réserve, et ce sera à la fin des temps, de distribuer à chacun le châtiment qui convient. Mais en ce monde, pendant au long de l'histoire, des chrétiens doivent être purs comme des colombes, même s'il leur faut être rusés comme des serpents pour échapper aux persécutions ou pour trouver un angle d'annonce de l'Évangile. On voit bien comment c'est difficile à notre époque. Le contexte culturel, social nous montre à quel point c'est difficile, même si les gens ne sont pas tous des anticléricaux, c'est-à-dire vraiment en colère contre l'Église, contre Dieu. Mais il y a une telle indifférence, c'est impressionnant. Comment rompre, déchirer ce voile d'indifférence totale? Personne n'a envie d'entendre quoi que ce soit à ce niveau-là. C'est uniquement des choses matérielles, politiques, mais les choses qui relèvent de l'âme, personne n'a envie d'en entendre parler. Chacun demeure ou dans son terrier ou dans son nid, soit les animaux qui vivent sous terre, soit ceux qui vivent en plein air, peu importe. Ça couvre tous les cas possibles et imaginables d'aspiration, dirais-je. Eh bien, lui, Jésus, n'a pas de lieu où reposer la tête, nous dit-il à ceux qui aspirent à devenir des disciples. En d'autres termes, aucune valeur de ce monde, aucune chose de ce monde ne peut être un lieu de repos pour le Christ et donc pour le disciple. Au contraire, le disciple doit, à l'instar de son maître, vivre dans une tension constante vers Dieu. C'est-à-dire concevoir le ciel comme la seule demeure possible. Or, on a à vivre sur la terre en attendant. Donc, c'est seulement par la prière qu'on peut goûter un peu de repos, par notre méditation. Méditons ce royaume de Dieu. Et pas une organisation terrestre qui serait à l'image de ce royaume. C'est là toute la différence. L'appel du chrétien est moins absolu, bien évidemment. Hein, là, je parlais donc des disciples. Et les disciples, c'est la vie consacrée. Et la vie consacrée, quand on entend les paroles de Jésus, elles sont simples pourtant, mais elles sont tellement absolues et radicales. Elles nous montrent que c'est lié, ça va de pair avec un détachement du monde, de ses valeurs, de ses fruits aussi, de ce que le monde peut nous offrir. Il faut aller plus loin que lui. Ça, c'est pour le disciple, pour le consacré, donc. Mais pour le chrétien, il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Et là aussi, il y a un caractère absolu qui est quand même très fort. C'est la même orientation vers le ciel. Lui non plus ne peut pas goûter son repos dans les choses d'en bas. Aucun d'entre nous ne le peut. Vous voyez, c'est constant dans l'Église, hein, ce tiraillement. Comment annoncer aux hommes et quelle position prendre par rapport au monde. Donc là, récemment, ça a été le synode d'Allemagne, vous savez, qui a tellement fait entendre parler de lui, parce qu'il a mis en avant toutes les valeurs du monde, toutes les valeurs prétendument d'avant-garde de certains théologiens, et des croyants. Ça a été vraiment la mise en lumière complète, mariage des prêtres, accueil des homosexuels, etc., etc. Du mariage, on s'entend, vous voyez, du sacrement, hein, des choses comme ça. Plus de pouvoir, évidemment, pour les laïcs, mais sans se poser la question que même si le nombre des prêtres diminue, les laïcs aussi diminuent. Parce que ça va ensemble. Si le nombre des laïcs augmente, eh bien le nombre des prêtres augmentera aussi. Ça va de pair. C'est pas un remède de faire passer d'un autre côté l'organisation de l'Église. Et puis les gens ont bien d'autres choses à s'occuper que la gestion de l'Église, la gestion des paroisses, etc., etc. Qu'est-ce que le synode d'Allemagne nous montre? Il nous montre que ils ont fait une sélection des valeurs du monde que l'Église doit accueillir pour redevenir dynamique, se redynamiser. Mais ça, c'est vraiment une grande illusion, parce que plus l'Église accueille ce type de valeurs, et nous le constatons depuis le début du XXe siècle, et plus les gens s'en vont, parce que c'est pas une spécialiste des mœurs complètement libérée, l'Église. Donc, de toute façon, si on veut avoir des mœurs libérées, il y a des clubs beaucoup plus adaptés pour ça dans le monde. L'Église, on parle de l'Église servante des hommes. Mais c'est totalement faux. L'Église ne sert pas les hommes. L'Église sert Dieu. C'est quand même pas la même chose. Or, c'est vrai qu'il y a eu cette exagération et cette erreur de dire, certains clercs prétendaient, à la suite de Vatican II, ils profitaient de Vatican II pour énoncer ce que Vatican II n'avait pas dit, pas comme ça. L'Église servante des hommes. Et puis on ne parle plus de Dieu. Mais ce n'est pas du tout le sens des choses. Alors évidemment, si l'Église est servante des hommes, elle va accueillir toutes les valeurs du monde. Et elle va être dissoute jusqu'au dernier croyant. Alors, dans les derniers temps, l'Église, il est vrai, se retrouvera au désert. Ça ira jusque-là, nous dit le texte de l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse nous montre un contexte de total refus de Dieu. Mais nous nous acheminons, semble-t-il, dans une direction qui, de manière inquiétante en Occident, en tout cas, en Occident. Va un peu dans ce sens. On voit toutes ces églises vides, même et maintenant qui commencent à être vendues pour toutes sortes, sans discernement d'ailleurs, qui est vendu à des privés, quoi, qui en font ce qu'ils veulent. Les chrétiens doivent, eux, témoigner de la vérité du royaume de Dieu. dites le royaume de Dieu est tout proche. Et quelles sont ses normes à ce royaume? Ce n'est pas celle du monde. Comment attirer dans le royaume de la lumière les gens qui sont sous le joug des ténèbres si on leur répète les valeurs du monde? C'est une contradiction. Plus l'Église sera exigeante dans son caractère absolu, dans sa tension vers Dieu, dans sa verticalité, en d'autres termes, eh bien plus elle sera lumineuse. Et plus les âmes qui souffrent en ce monde, eh bien verront cette lumière au milieu de la nuit. Mais si la lumière de l'Église, eh bien par sa communion, ses compromis avec les valeurs du monde, eh bien manque de clarté, d'intensité, eh bien les âmes qui sont dans le monde ne percevront plus cette lumière. C'est un peu ça, je prendrais cette métaphore-là pour dire que le témoignage et la force de l'Église baissent comme une lumière qui baisse d'intensité et on la voit de moins en moins. C'est tout ça parce que on oublie les enseignements de Jésus. Les enseignements de Jésus, c'est le Fils de l'homme, autrement dit le modèle du croyant, n'a pas de lieu où reposer la tête en ce monde. Sa tête, elle est... Le repos pour sa tête, c'est dans un autre monde, c'est dans l'éternité, c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. Et puis, il faut accepter de mettre le royaume devant toutes les valeurs humaines, même les bonnes. Permets-moi d'aller dire adieu à mes proches. Et dans l'Antiquité, ça consistait à faire de grands banquets pendant plusieurs jours, en convoquant la famille, surtout si elle était grande, ça prenait un mois facilement, vous voyez le contexte social. Jésus dit, non, il n'y a pas le temps pour ça. Si je t'appelle, si ton cœur est touché par la parole que je te dis, tu dois passer outre ton attachement familial, tu dois aller prêcher le royaume de Dieu tout de suite, sans t'attarder encore à des choses qui te le feront oublier, parce que notre disciple risquerait de s'enivrer, il risquerait de faire des bêtises, il risquerait finalement de rester chez lui. Soyons des disciples, même si le Seigneur ne nous demande pas un état de vie consacré objectif, gardons cette verticalité parce qu'elle est le sceau de Dieu.